Tout pour investir, la boîte à outils.
Et on ouvre la boîte à outils avec Souleymane Jean Galadima de Sapience. Bonjour.
Bonjour Don.
Et donc on va parler des émergents, mais oui, parce qu'on parle beaucoup du marché européen, beaucoup du marché américain, évidemment, qui drive un petit peu la tendance. Puis là, c'est vrai que l'actualité entre résultats, décisions de banque centrale, on était plutôt focalisé là-dessus. Mais les émergents, faut pas les perdre de vue. Et puis on a surtout, on va dire un paysage qui est en train de changer avec des très grandes puissances. Au milieu de ce paysage un peu disparate, que ce soit l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, enfin, est-ce qu'il faut encore parler de marché émergent? Après, la nomenclature est assez précise, hein, mais voilà. Et puis des terres de conquête, que ce soit l'Amérique du Sud. Comment se présente le paysage des marchés émergents en ce moment, là, à l'heure où on se parle?
Alors, on considère que nous, c'est une vraie opportunité. Que ce soit sous l'aspect en fait obligataire ou l'aspect action, ce paysage, c'est presque un peu condescendant d'ailleurs de parler d'émergents puisque ce sont de grandes puissances.
C'est ça, bah oui.
aujourd'hui, 40% du PIB mondial est drivé par les pays émergents, 50% de la croissance, et pour autant, on voit que c'est absent du MSCI World, c'est à peine 12% du MSCI All Country, et on sent que quand on se projette entre guillemets sur l'avenir, il y a de réelles opportunités. La Chine est le deuxième pays en termes d'intelligence artificielle. L'Inde, c'est 20% de production des médicaments génériques. Le Brésil est en train de dérouler également sur les biotech. Donc, il existe des opportunités. Elles se traduisent aussi d'ailleurs dans les valorisations, puisque si on regarde en effet la valorisation dans les pays émergents, on est plutôt en moyenne sur 12 fois les bénéfices futurs quand on est à 21 fois sur le S&P 500. Donc la valorisation est intéressante, le potentiel sur l'avenir est intéressant, et donc on a du mal, nous, des fois, côté conseiller multifamily office, à bien faire comprendre aux investisseurs que l'image que l'on avait des pays émergents dans les années 80-90 n'est plus du tout la même aujourd'hui. Il y a une forme d'asymétrie, une divergence, et qu'aujourd'hui, il existe des opportunités. Nous, on le voit sur l'obligataire et sur les actions.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que souvent, on parle des marchés émergents, on regarde les marchés actions, c'est vrai qu'il y en a certains qui progressent. Enfin, c'est assez fabuleux. On parlait de la Corée du Sud avec le réveil de la DRAM, de Samsung, là. Et encore une fois, est-ce qu'il est question de parler de marchés émergents quand on parle de la Corée du Sud? Mais il n'y a pas que les actions, il y a aussi la dette. Et ça, c'est un point intéressant. Je note que, dans votre étude que vous nous apportez, généralement, les entreprises des pays émergents sont plus fiables en matière de gestion de leur dette que les pays développés.
Exactement. En fait, il y a déjà une inefficience structurelle qu'on appelle un tout petit peu le plafond souverain. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, du pays comme l'Équateur, qui est notée triple C, ne peut pas avoir en fait, de note crédit supérieure à celle de son pays. Donc cette même entreprise, qui a des fondamentaux financiers solides, qui est exposée à l'international, qui est résiliente, en fait, elle emprunte aujourd'hui en Équateur sur un coupon, un taux d'intérêt à 10%. Alors qu'en fait, une entreprise équivalente en France, avec les mêmes fondamentaux financiers, emprunterait en fait à 3%. Est-ce qu'il y a trois fois plus de risques? Non. Et donc, c'est pour ça qu'on considère qu'il y a une opportunité de marché à utiliser cette dette corporate des pays émergents en complément d'une poche obligataire un peu plus traditionnelle pour venir doper la performance. Et comme vous l'avez dit, avec en plus un niveau d'endettement qui est sensiblement moins élevé sur les dettes corporate en fait des pays émergents versus les dettes corporate des pays effectivement occidentaux.
C'est super curieux, mais personne s'est penché sur ce paramètre technique parce que ça fausse complètement le paysage en vrai.
Ça fausse le paysage. Il existe quelques exceptions d'ailleurs en France. On a des entreprises qui sont mieux notées que l'État français, mais malheureusement, ça ne s'applique pas effectivement sur les pays émergents. Ouais, derrière, on a souvent aussi l'argument de dire oui, mais les pays émergents ont un marché en fait pas forcément liquide ou plus restreint. C'est pas du tout le cas. En fait, le marché de la dette corporelle des pays émergents, c'est 2500 milliards de dollars. C'est plus que le marché du high yield américain et européen réunis. Donc, il y a de la liquidité. Il y a un effet de levier mesuré et en plus, effectivement, il y a ce potentiel de croissance en fait actuel et à long terme à pouvoir capter. Donc, nous, on considère, pour parler chiffres, que c'est intéressant d'avoir entre 10 et 20% en fait dans sa poche obligataire d'obligataires pays émergents, à condition d'utiliser en effet des gérants capables de sélectionner ces entreprises corporate, parce qu'on sera dans des géographies différentes, dans des domaines spécifiques, dans des analyses crédits un peu plus complexes qui nécessitent, en ce qui nous concerne, de la gestion active versus plutôt la gestion passive sur les large caps mondiales. Mais là, effectivement, sur la dette corporate des pays émergents, c'est bien d'avoir des gérants qui ont un track record, et notamment sur la partie défaut, supérieur au benchmark. Et nous, on aime bien utiliser notamment IVO dans l'allocation à nos investisseurs.
Ok, à noter, parce que c'est vrai aussi qu'il y a cet aspect technique dont on vient de parler, et puis il y a aussi toute la technicité de l'organisation des indices. À savoir que il y a un indice MSCI World qui vous permet de jouer le World, mais il n'y a pas tous les pays dedans. Non. Là, il faut jouer le MSCI All Countries, si j'ai bonne
mémoire. Et même le All Country, en fait, ce n'est que 12% d'exposition aux pays émergents. Donc c'est déjà une première approche. Parce qu'effectivement, on voit des fois passer sur les réseaux, oui, vous faites un MSCI World en ETF 100% et vous êtes exposé. Non, en fait, vous n'êtes pas exposé en fait à 40% du PIB, 50% de la croissance.
Non.
Donc le MSCI All Country est une première étape, mais nous on conseille plutôt de faire à la limite du MSCI World et mettre 20% de MSCI Emerging Market qui accessoirement en 2025 surperforme de près de 10,4% le MSCI World en termes de performance. Donc il y a un vrai potentiel, certes, de volatilité, mais aussi de surperformance en jouant les émergents tant sur la partie obligataire que sur la partie en fait action. Et je répète, pour donner le chiffre sur la partie obligataire, l'effet de levier pour un corporate émergent, c'est une fois l'EBITDA. On est effectivement après deux ou trois fois l'EBITDA aux États-Unis et en Europe.
Les deux, trois pays, les deux, trois zones émergentes qui vous intéressent le plus ?
Aujourd'hui, on regarde énormément, notamment le Brésil, qui est effectivement un pays particulièrement intéressant. L'Inde, naturellement, la Chine aussi, puisque notamment la tech chinoise, je l'ai dit, est beaucoup moins valorisée effectivement que la tech US. Alors, on peut considérer que le risque géopolitique est ou non intégré dans le cours, donc on considère qu'il est intégré dans le cours. Donc, on considère que c'est intéressant de s'exposer sur ces pays. Il s'agira juste d'être vigilant sur l'impact notamment de ces pays émergents, notamment l'Asie du Sud-Est, par rapport à la crise effectivement du détroit d'Ormuz, puisque ce sont des régions malheureusement fortement impactées.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Là, il y a quand même toute une zone en Asie du Sud-Est qui se voit un peu paralysée en matière d'activité économique. Il y a des restrictions à cause du... Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'essence, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui peut peser à l'avenir et sur lequel il faut être vigilant et justement jouer une gestion active vraiment avec des gens qui connaissent et qui savent?
Exactement. Pour jouer les bons territoires, les bonnes entreprises, celles qui potentiellement seront moins exposées à ces restrictions énergétiques, versus effectivement une gestion un peu passive que l'on peut faire plutôt sur des large caps globales américaines ou européennes.
Le timing est bon. Et regardez un petit peu ce que donnent les performances des pays émergents et au besoin peut-être appuyer un petit peu le curseur dessus. Merci beaucoup Souleymane Jean, Galerima de Sapiens et une prochaine fois pour refaire le point sur les zones importantes sur lesquelles investir.